DW. Magazine Environnement.
Nous parlerons cette semaine de la protection des oiseaux migrateurs en Mauritanie. Les zones humides mauritaniennes constituent des sites importants pour l'accueil et la conservation de ces oiseaux. Plusieurs conventions ont été ratifiées et des actions ont été menées pour leur protection. Et l'un des acteurs de la protection de ces oiseaux est Yeli Diawara.
Il y a plusieurs zones humides en Mauritanie dispersées dans le désert où on trouve des oiseaux rares qui passent par la Mauritanie. Donc il y a 5 voies de migration en Afrique qui traversent l'Afrique de l'Europe vers l'Afrique du Sud. Les 3 voies de migration passent par la Mauritanie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Kosivitiasso au micro. Améliorer et partager les connaissances sur les zones humides, des lieux par excellence pour la conservation des oiseaux, c'est ce à quoi s'attelle Yeli Diawara, le président de l'Association mauritanienne pour la protection de l'environnement Nature Mauritanie. Malgré le désert, la Mauritanie accueille chaque année des millions d'oiseaux migrateurs en passage ou pendant l'hiver.
On s'est rendu compte que la protection de ces oiseaux dans les parcs, c'est très limité. Donc on a élargi à toutes les zones humides mauritaniennes la conservation de ces oiseaux. Donc, pour conserver ces oiseaux, nous avons donné la priorité aux jeunes, les jeunes qui sont les hommes du futur, pour les impliquer dès le début à l'école pour la conservation de ces oiseaux dans ces zones humides. Voilà un peu une idée pourquoi on a ces pépinières scolaires, donc conservation de toutes les zones humides. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone désertique. Pour protéger des points d'eau, il faut également faire des plantations, il faut faire des brise-vents pour continuer à conserver ces points d'eau qui sont les sources pour les oiseaux.
Et qu'est-ce que cela apporte en conservant ou bien en protégeant les oiseaux?
Les oiseaux, c'est comme les autres êtres vivants. Donc les oiseaux sont d'abord des indicateurs des changements climatiques. Les oiseaux dans certaines zones humides sont des indicateurs comme les oiseaux marins indiquent beaucoup le stock halieutique et plusieurs situations dans la mer. Dès qu'il y a un petit changement, comme les oiseaux ont la capacité de se déplacer, on peut facilement constater. Donc, ce sont des indicateurs par excellence des sites.
Et comment vous arrivez à faire comprendre à un paysan qu'il faut protéger les oiseaux et non les chasser ou bien les tuer pour la consommation?
Vous savez, ça doit prendre beaucoup de temps, surtout dans des zones où il y a la chasse. Donc, les gens font de la chasse. Donc, pour faire comprendre, ce n'est pas facile. Donc, pour cela, on fait de l'éducation dès la base. On essaie de faire comprendre aux adultes que l'importance de ces oiseaux, quand il y a les oiseaux ici, c'est parce que les conditions sont encore réunies. Donc, c'est des indicateurs de situation qui sont là. On essaie de changer un peu le comportement des populations. On essaie de les aider pour changer d'activité qui mène vers la chasse, etc. Donc, on les occupe pour faire autre chose, ce qui aide à la conservation des oiseaux.
Est-ce que selon vous, le message passe?
Oui, le message passe bien sûr. Le message passe dans certaines zones avec l'appui que nous sommes en train de faire, avec l'éducation que nous sommes en train de faire. Ils comprennent que c'est important pour leur environnement. Et surtout dans ces zones où également, quand il y a des oiseaux, il y a beaucoup de touristes qui viennent voir. Ils commencent à comprendre l'importance de retomber de ces visiteurs. Donc, ils ne peuvent pas trouver ça s'il n'y a pas des oiseaux dans ces zones.
Et depuis des années, Yeli Diawara et son association suivent l'évolution des populations des oiseaux migrateurs et autres espèces vulnérables sur le littoral mauritanien. L'association pilote des initiatives en vue d'améliorer la conservation de ces espèces et de leurs habitats en Mauritanie, carrefour des oiseaux migrateurs.
La Mauritanie, c'est l'un des pays africains où il y a plus d'oiseaux qui passent. Il y a plus d'1 million d'oiseaux ou 1 500 000 oiseaux qui passent l'hiver en Mauritanie. Il y a plusieurs zones humides en Mauritanie dispersées dans le désert où on trouve des oiseaux rares qui passent par la Mauritanie. Donc il y a 5 voies de migration en Afrique qui traversent l'Afrique de l'Europe vers l'Afrique du Sud. Les 3 voies de migration passent par la Mauritanie. Il y a 5 au total, les 3 passent par la Mauritanie de l'Est en Ouest.
Et quel type d'oiseaux peut-on trouver en Mauritanie?
Il y a plusieurs espèces d'oiseaux qu'on peut trouver. Il y a 350 oiseaux qu'on peut trouver, espèces d'oiseaux qu'on peut trouver en Mauritanie. Les grandes quantités d'oiseaux, ce sont les limicoles. On les appelle les petits oiseaux. Ils passent l'hiver au Bandarguin. Plus d'un million d'oiseaux. Les barges rousses, les bécassos, les bécassos et les chevaliers. En quantité importante, qui passent l'hiver, plus d'un million. Ils font le chemin de la Mauritanie au Sénégal jusqu'en Guinée-Bissau. La majorité s'arrête en Guinée-Bissau pour retourner en Europe vers avril.
Est-ce que les autorités publiques soutiennent votre initiative?
Oui, bien sûr. Depuis plusieurs années, nous travaillons dans ce domaine. Donc, on travaille avec les autorités. Et il y a déjà 2 grands parcs nationaux en Mauritanie, dont un, le parc national du Bandarguin. C'est le plus grand parc en Afrique. Il fait pratiquement, sur une côte de 600 mètres carrés, le parc couvre les 400 mètres carrés.
Un parc où on compte beaucoup d'espèces d'oiseaux.
Oui, c'est le parc du Bandarguin et le parc du Diaoling, oui. Le Bandarguin, plus d'un million, et le Diaoling, une grande diversité.
Est-ce que ces parcs sont accessibles à tout le monde aujourd'hui?
Ils sont accessibles à tout le monde.
Mais cela peut aussi constituer une menace pour ces parcs?
Non, on ne peut pas. Ce n'est pas accès dans ce sens. C'est accès pour aller visiter, pour aller faire des études, les touristes, mais pas pour faire la chasse. C'est des parcs, ils ont leur... Il y a des lois, donc c'est interdit là-bas, dans cette zone, à la chasse. Complètement interdit. Donc il n'y a pas de chasse aux oiseaux là-bas. Et d'ailleurs, la Mauritanie, c'est un pays où on n'utilise pas, on ne consomme pas beaucoup les oiseaux d'eau. C'est un grand pays d'éleveurs, donc il y a beaucoup de viande ici. Très peu de gens s'intéressent aux oiseaux.
Les zones humides mauritaniennes sont les premières à accueillir les oiseaux migrateurs du nord en automne, qui se mélangent pendant l'hiver avec des oiseaux d'origine tropicale qui réalisent, eux, des migrations régionales sud-nord. Cap à présent sur l'Ouganda, le pays a perdu les 2/3 de ses forêts depuis la fin des années 90 en raison de la production de charbon. Mais l'utilisation de roches volcaniques pour cuisiner offre aujourd'hui une alternative écologique aux populations. Un reportage de Julius Mangamboué présenté par Nafisa Amadou.
Vous pouvez cuisiner tout ce que vous voulez avec ces fours et faire beaucoup d'économies. Ils nous ont vraiment aidés parce qu'après l'installation, l'entreprise vous donne des roches volcaniques. Nous utilisons plus de charbon, seulement de la poussière de charbon qui sert à allumer les roches. Rebecca Kiwanuka a cuisiné toute sa vie avec un four à charbon. Des fours qui sont à la fois mauvais pour sa santé et nocifs pour l'environnement et qui coûtent très cher. Mais aujourd'hui, elle a un nouveau four bien particulier qui lui permettra de faire des économies.
Avant, j'utilisais beaucoup de charbon. J'ai calculé que chaque année, je dépensais 1,2 million de shillings pour acheter du charbon pour cette maison. Mais maintenant, la poussière de charbon que j'utilise me revient à moins de 100 000. La roche volcanique est la clé de ce nouvel éco-stove ou éco-four. Une fois que les roches sont chaudes, elles peuvent le rester pendant des heures grâce à un ventilateur à énergie solaire qui projette sur elles un flux d'air continu. Cet éco-four a été inventé par Rose Twine. Elle dirige l'entreprise qui les fabrique. Nous avons une technologie qui peut réduire de plus de 90% la quantité d'arbres abattus en Ouganda. Pour l'éco-four, nous utilisons des roches volcaniques qui brûlent bien plus longtemps que le charbon ou que le bois. C'est propre, c'est efficace, c'est simple. Les roches volcaniques peuvent être utilisées pendant 2 ans en moyenne. L'éco-four est décliné en plusieurs formats avec une option de fours commerciaux de grande taille, comme ceux de ce marché de la capitale Kampala où plus d'un millier de personnes viennent manger chaque jour. Le four est aussi bénéfique pour les cuisiniers qui l'utilisent parce qu'il ne génère presque aucune fumée. On estime que les fours traditionnels à charbon ou à bois contribuent au décès de près de 20 000 personnes par an en Ouganda. Le nouveau four est aussi plus efficace que les formats traditionnels. Dans le sud-ouest de l'Ouganda, au pied du mont Muhabura, l'entreprise EcoStove a offert de nouvelles opportunités aux familles d'agriculteurs. Elle a formé et emploie des habitants pour l'extraction de roches volcaniques qui sont ensuite récupérées et amenées dans les locaux de l'entreprise. Quand un camion vient, je reçois jusqu'à 100 dollars. Avec cet argent, je peux payer les frais scolaires de mes enfants et leur acheter des vêtements et de la nourriture. La vie est devenue bien meilleure grâce à ces roches. Avant, nous étions agriculteurs, mais les roches ont maintenant la priorité. Nous avons de la chance d'avoir quelqu'un prêt à nous les acheter. Un grand nombre de roches volcaniques sont stockées dans l'usine d'EcoStove. L'entreprise fabrique jusqu'à 40 fours par jour. Elle en a vendu près de 17 000 à ce jour. Chaque four est vendu avec un petit sac de roches. Rose Twine explique que cet appareil pourrait être utilisé dans de nombreux pays et régions. Nous voulons former autant de personnes que possible à devenir entrepreneurs. Nous ne voulons pas que notre technologie reste sous contrôle ici. Ouganda a une population de 40 millions d'habitants. 90% continuent de cuisiner au charbon de bois. Le marché potentiel de l'éco-four est donc énorme. Les bénéfices pourraient aussi être très importants et pourraient contribuer à freiner la déforestation en Afrique.
Merci à Nafisa Amadou et Jolis Magamboué. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Également au menu cette semaine, la protection des oiseaux migrateurs en Mauritanie, l'initiative de l'association mauritanienne pour la protection de l'environnement Nature Mauritanie. Kossivi Tiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.